Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Là-bas, il y a un émetteur-récepteur très performant et assis devant un opérateur radio plus que performant.
Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
Passe-moi la radio.
Les oreilles en éventail.
C'est à travers de larges champs que l'entreprise Colas construit des tours et des hauts champs sans souci de la populace.
Tu restes là ?
Bah là, on est sur la D170.
Ah bon ? Maintenant, je suis sur là.
Ça dépend, là. Emmanuel, tu dis quoi, toi ?
Bah moi, je dis, il y a des champs sur la droite.
Ouais, bah c'est là. Mais je sais pas exactement où on va. Sortir.
Là.
À europacity.com.
Ouais.
De là, oui.
Moi, je sais pas où je suis, hein.
Non, mais c'était au bon endroit, T'es au triangle de Bonnest.
Bonnest, droit, D170. Voilà.
C'est juste qu'on est dans un no man's land, c'est bien pour ça qu'il y a Aeropacity qui m'a poussé.
Bah, en fait, c'est le no man's land de l'aéroport. Si tu veux, c'est la zone où rien ne peut être construit parce que c'est là où les avions tombent, tu vois.
C'est là où les avions.
Alors, droite ou gauche ? Droite ou gauche ?
Tout droit.
Non, Gonesse.
Droite.
Eh ben oui, Gonesse, ouais, exactement.
Avec imprudence, cette entreprise promet le ciel mais vole la terre. Elle bétonne, détruit et électrise et fait de ce monde un enfer.
Je suis quasiment sûr qu'il y avait écrit chemin de la justice.
Là ?
Ouais.
Ok.
Voilà, tu vois, là on est dans les champs.
Mais est-ce que c'est dans les champs
peut-être... Ouais, ben...
C'est pas sûr.
Si, c'est dans les champs.
Et là, à droite. Et ça, c'est le chemin de la justice.
C'était curieux d'être ici.
Et si c'est pas là, ben, ça veut dire que je me suis planté.
Vous savez, c'est quoi le mieux pour qu'on se gare ? Salut.
Salut.
Là, du coup, pour se garer, le mieux, il y a un truc qui vous arrange.
Un endroit particulier, il faut essayer de trouver une place là, sans boucher. Juste, le seul truc, c'est de ne pas boucher le passage.
Bien sûr, bien sûr.
Sinon, vous mettez où vous voulez.
Derrière la voiture. Ah oui, il y a un fossé, non ?
Oh, bah tiens.
Non, tu peux derrière cette voiture.
Voilà.
Mais c'est la police.
Ah putain, il y a la police.
Ah, il y a la police qui est là.
Remets-la.
Mets-toi là, garde-toi là. Derrière cette voiture-là.
Ouais.
C'est bon. Okay.
C'est le tout début.
Description
du lieu.
Ouais.
C'est beau, il y a du soleil, il y a la route, un début de potager, quelques personnes qui ont l'air fort sympathiques, des avions qui passent et du maïs.
Des objets radiophoniques, c'est bien dit ça.
C'est ça, des objets radiophoniques. Bonjour.
Bonjour. Bonjour alors.
Pardon.
Vous venez d'où? De Paris.
Paris.
D'accord. C'est la première fois?
Ouais.
D'accord.
Gonesse, c'est où là, par rapport à ici?
Gonesse, c'est là.
Le triangle, c'est ça comme ça.
Ouais, le triangle, il a la pointe qui va vers Paris. Là, vous voyez le Sacré-Cœur là-bas.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est trop bien la vue.
La tour Eiffel. Là, à gauche, c'est la tour de télé de Romainville.
Ouais, ouais, ouais. Hein?
Et la 1, vous voyez la 1 avec les camions là, qui passent là-bas au bout, ça c'est la 1 qui descend vers Paris.
D'accord, donc le triangle c'est là.
Le triangle, il est délimité par l'autoroute là, d'un côté, de ce côté-là, et une autre voie rapide là qui est là, et qui va en se refermant vers Paris. Ça fait la pointe vers Paris. Sauf que la pointe là, elle a déjà été urbanisée un peu par des entrepôts là qu'on voit au bout. Donc il est un peu tronqué au bout. Et là, de ce côté-là, il s'élargit en allant vers Roissy, vers l'aéroport.
Ok. C'est énorme.
Ouais, et ça fait 700 hectares tout ça.
Et Europa City veulent combien d'hectares?
Ben, Europa City, c'est un projet donc privé de centre commercial hein, qui fait 80 hectares. Et donc il serait dans ce coin-là. De l'autre côté de ce boulevard là, tous les champs que vous voyez de l'autre côté. Europa City, c'est le projet privé, c'est le centre commercial avec la piste de ski, tous ces trucs. Mais autour d'Europa City, il y a ce qu'on appelle la ZAC, la zone d'aménagement concertée. Du triangle de Gonesse, qui elle fait 300 hectares.
Ah ouais, c'est gros.
Voilà, et ces 300 hectares, en fait, on ira sur le pont tout à l'heure, vous verrez mieux, mais ça fait tout ce que vous voyez là. Mmh. D'accord ? Avec 800 000 mètres carrés de bureaux, c'est un truc incroyable.
Donc. Et là, ils veulent construire la gare, c'est ça ?
Et la gare, elle serait juste derrière là-bas, là, dans les maïs.
Et elle est dans le cadre du Grand Paris, la gare ?
Ouais, c'est une des gares de la ligne 17 Nord.
Métro.
Du métro du Grand Paris Express. C'est une des seules lignes avec la 18 qui passe dans les champs. C'est une ligne qui est faite pour urbaniser. Voilà. Ouais. Il y a deux sortes de lignes. Il y a les lignes qui servent les gens qui sont déjà là, et puis il y a les lignes qui sont faites pour construire.
Ouais.
Ça, c'est une ligne pour construire. Voilà. Et elle ne veut pas que construire ici. Hein. Elle veut aussi. Après, elle va à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc là, ils veulent faire le terminal 4 hein, pour augmenter de 30 millions, 40 millions le nombre de passagers par an. Et puis derrière. Ils vont au Mesnil-Amelot, qui est la ville qui fait frontière avec la Seine-et-Marne. Et là, il y a plein de terres agricoles où ils veulent construire du périurbain, hein, des pavillonnaires.
Mais moi, je pensais qu'ici, ils ne pouvaient pas construire parce que c'était la zone où les avions tombaient.
Alors ici, ils n'ont pas le droit de construire de logements. Mais on peut construire tout le reste, hein, des centres commerciaux.
Les avions peuvent tomber sur les centres commerciaux, mais pas sur les logements.
Exactement. Okay. Mais ce n'est pas pour ça que c'est interdit. C'est à cause des nuisances sonores.
Ah oui, voilà.
Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une étude d'Air Paris, qui est l'organisation qui étudie la qualité de l'air et du bruit à Paris. Elle a montré que les habitants de ce coin-là, là, qui sont sous les cônes de décollage et d'atterrissage des avions, ils ont une espérance de vie réduite de 2 ans en bonne santé par rapport au reste des habitants de l'Île-de-France.
Ok.
Rien que les avions, ça.
Rien que les avions.
Perdent 2 ans.
Ouais. Voilà.
Il y a beaucoup d'agriculteurs ou c'est concentré?
Non, il y en a très peu. C'est de la grosse agriculture industrielle,
ouais.
De céréales. Donc là, on voit du maïs, sinon c'est du blé. Le vert, là, non, le jaune, c'est du blé, ouais. Que vous voyez là. Donc, ils font des rotations de maïs, de blé, de colza et de betterave, en gros. Mais ce n'est pas une agriculture bio, hein. C'est vraiment industriel.
Donc, il y a 3 agriculteurs?
Ils sont une dizaine.
Là, dizaine.
Une dizaine, ouais.
Ils veulent vendre?
Oui, ça fait 30 ans qu'on leur dit qu'il faut qu'ils se tirent. Donc, la plupart, ils se sont fait prendre des terres un peu partout. Hein, parce qu'ici, c'est ce qui reste grâce aux aéroports. Parce qu'il y a le Bourget qui est juste là. Hein. Donc là, on est entre 2 aéroports. Donc, à cause des nuisances d'aéroports, ces terres n'ont pas été bâties. Mais tout le reste autour, ça a été pris sur les mêmes terres agricoles. Donc, ces exploitants agricoles, eux, on leur a piqué des terres partout. Et petit à petit, ils se sont relocalisés bien plus loin en banlieue. Ils sont partis dans la Somme, dans l'Eure, voilà. Et ils ont leur ferme là-bas maintenant. Donc ici, c'est un peu loin pour eux. Donc là, même si ça leur rapporte pas mal, parce que ça ne demande pas beaucoup de travail de faire des céréales, là, on leur file un pactole quand même pour partir. Donc ça ne les dérange pas plus que ça.
Vous savez combien ?
Là, ça a déjà été exproprié. Ils ont touché, s'ils étaient propriétaires, 9 euros au mètre carré. Ça fait 90 000 euros l'hectare. Hein? Et le prix de la terre agricole ici c'est autour de 3000 euros l'hectare, hein? 3000 jusqu'à 10 000, peut-être là les meilleures terres à 10 000 maximum, donc là c'est 10 fois le prix plus l'exploitation 1 euro l'hectare, donc s'ils sont propriétaires et exploitants ils ont 100 000 euros à l'hectare, donc s'ils vendent 10 hectares ils ont 1 million.
Ouais.
Donc ça, on comprend qu'il puisse vouloir vendre et gagner un petit pactole pour acheter une moissonneuse-batteuse. Hein. Vous savez combien ça coûte une moissonneuse-batteuse?
Non.
50 000, non? Plus?
300 000.
300 000.
C'est cher les machines. Putain.
Toute la partie au nord là, du boulevard, tout ça c'est exproprié déjà. Donc c'est la propriété de l'établissement public foncier d'Île-de-France.
Public foncier d'Île-de-France,
hein, qui est un des gros opérateurs de l'aménagement sur toute la région parisienne. Ouais. Et qui ensuite va rétrocéder ses terres à Grand Paris Aménagement, qui est l'aménageur de cette zone. Par contre, toutes les terres de l'autre côté du boulevard, là, donc au sud, celles-là, elles n'ont pas encore été expropriées. C'est pour ça que la décision de justice là, qui est arrivée jeudi, qui valide la ZAC, hein, qui avait été annulée par le tribunal administratif, là, la cour d'appel l'a revalidée.
Ah, elle est validée finalement.
Ouais, la cour d'appel a dit non, finalement, l'étude d'impact est bien faite, c'est pas la peine d'étudier les gaz à effet de serre ou l'énergie. Donc, ils ont validé. Donc, du coup, ils vont pouvoir exproprier là.
Ils veulent le faire, quoi. Hein.
Ah, ça oui, ils veulent le faire. Ben, les travaux de la ligne 17 ont déjà commencé. Hein. Là, si vous voyez les tas de terre là en face, vous voyez
ouais.
Un tas de terre,
ouais.
Ça,
ouais.
C'est les. Là, c'est l'endroit où ils sont en train de creuser un trou pour enfoncer le tunnelier qui va aller creuser vers le Bourget pour la partie sud de la ligne 17. Nous, on pense que ça va être assez difficile d'arrêter la ligne 17. Par contre, ce qu'on demande, c'est de ne pas faire de gare, là. De passer en souterrain.
La gare qui est prévue derrière, là.
C'est là derrière, oui. Donc, de ne pas faire de gare ici pour ne pas urbaniser, quoi. Voilà.
Et alors, c'est quoi les bons ingrédients pour qu'il y ait une ZAD? Parce qu'il y a le début. C'est de la terre?
Ouais. Mais il n'y a pas d'opposant historique. Enfin, il n'y a personne qui est là, en fait. C'est ce qu'il disait. Ça, c'est problématique. Les paysans, les fermiers, ils sont même pas là. Les proprios s'opposent pas, quoi.
Ok. Par contre, il y a des habitants à Gonesse qui sont pas loin qui, eux, s'opposent.
Ouais.
C'est pas suffisant?
Je sais pas.
Solidarité contre la précarité, c'est pas le climat qui doit changer, c'est Auchan qui doit fermer. Vous êtes déjà baladé à l'intérieur des champs de maïs?
Ah, je crois que j'avais fait ça.
Ouais, écrire non à Europa City en
visible depuis l'avion.
Ouais, exactement. C'est des aliens.
Oui, alors le problème, c'est que c'est sans fin et c'est monotone.
Ouais, c'est ça.
puis
Castorama.
Et Usine Center, les baskets.
Les baskets.
C'est le meilleur endroit pour habiter ici.
Ce qui serait la ZAC du triangle de Gonesse, donc la zone d'aménagement concerté, c'est ça que ça veut dire, ZAC, du triangle de Gonesse. Donc, à gauche, si vous suivez mon regard là, sur la gauche, vous voyez l'autoroute A1, là-bas. Ça, c'est la limite du triangle de ce côté-là, avec le centre commercial au Paris Nord, qui est un des trois centres commerciaux qui sont déjà ici sur le terrain. Si on remonte le long de l'autoroute A1, on a le centre commercial Paris Nord 2 avec Ikea. Et si on remonte encore un peu plus, on a le centre commercial Aéroville. Voilà, ça nous fait trois gros centres commerciaux relativement récents, très récents même, déjà sur le territoire. Le projet Europa City, c'est un projet de centre commercial énorme, 250 000 m2, ce serait le plus gros centre commercial d'Europe, avec une piste de ski, un aqua boulevard ou un truc comme ça, une ferme urbaine, bien sûr, et évidemment des hôtels, de une étoile jusqu'à 5, une salle de concert et je dois oublier des choses encore, restaurant, enfin tout ce que vous voulez, et des parcs à thème.
Un avion à réaction, Jean-Pierre Blasi. Un avion à réaction pourrait bien arriver ici, pourrait bien arriver ici. S'il se crache sur ton terrain, mon petit Jean-Pierre Blasi, s'il se crache sur ton terrain, tu dois annoncer au PLU, tu dois annoncer au PLU. Mon petit Jean-Pierre Blasi, un cimetière d'avion c'est mal. Mon petit Jean-Pierre Blasi, si ton terrain est un cimetière d'avion, tu ne pourras rien en faire.
Comment il s'appelle le maire? Il s'appelle
Blasi.
Blasi.
Jean-Pierre Blasi.
Jean-Pierre Blasi, ouais.
Jean-Pierre Blasi. D'accord, c'est lui qui veut ça.
Depuis le début.
Et que ça se rebellion?
Ouais. Ouais. Oui. À la base, c'est en Angleterre.
Mais c'est jeune ou pas?
Oh oui, c'est assez jeune. C'est, ben, nous, en France, on a fait la déclaration en mars.
Ah ouais?
Et en Angleterre, allez, 2 ans. C'est vraiment tout. Ça vient de Rising for Climate.
Ça veut dire
quoi? Se lever pour le climat. Qui est du coup un collectif anglais. Et du coup, ils ont fait Extinction. Ils ont créé Extinction Rebellion.
C'est quoi qu'a apporté? Enfin, par rapport à ce qui existait déjà, tu vois, toutes les assos et tout, qu'est-ce que ça vient apporter d'autre?
Mais c'est une bonne question. Je ne saurais pas dire. C'est une bonne question. Je pense que du côté, mais par rapport aux autres assos,
par rapport à ce qui existait, quoi.
Sur ce qui existait
oui,
déjà.
C'est un mouvement politique.
Bah, Greenpeace, par exemple. ANV COP 21. Bah, les jeunes pour le climat.
350.org, je crois.
Voilà, exactement.
Mais Greenpeace, ils font pas des actions.
Bah, c'est pas
à part dans la mer.
Si. Bah, si, ils ont fait.
Si,
plein
ils en fait. Ouais. Ils bah, en
ouais.
fait.
Oui, mais en tout cas, moins que là, maintenant, Extinction Rebellion en fait.
Non, mais Rebellion,
c'est juste parce qu'il y a un.
Oui, je pense aussi à un projecteur parce que Greenpeace ils sont quand même assez présents quoi. Mais je pense peut-être, je sais pas, hein, ce qui nous distingue c'est que nous on veut pas engager de dialogue avec les politiques et avec le gouvernement. On veut, voilà, on veut faire des assemblées citoyennes et on n'est pas, on veut pas essayer de faire voter des lois ou des choses comme ça. Enfin, on veut pas passer par là quoi. Enfin, je sais pas,
ouais, j'aime bien ton idée quand même. Qu'on passe de peace à rébellion.
Bah ouais, ouais, c'est bah ça ouais. aussi, ouais. Ouais. C'est une belle, belle image.
Et puis il y a extinction, c'est-à-dire c'est en mode, c'est vraiment
la guerre des nerfs. Il y a une urgence. Je crois qu'on n'est plus sur un. On n'est plus là pour sensibiliser les gens, quoi. On est là pour dire c'est la merde. C'est la merde, c'est trop tard. Et on va faire en sorte que ce soit pas trop, encore plus la merde. Il y a Deep Green Resistance qui, eux, se situent plus sur du sabotage.
Comment ils s'appellent ceux-là? Ça nous intéresse.
Deep Green Resistance.
Deep Green Resistance.
Ouais. Et eux, ils viennent des États-Unis. Et il y a un petit groupe en France. Mais par contre, je crois qu'ils sont pas hyper. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas très nombreux. Et eux, bah, clairement, c'est du sabotage.
Si, j'entends un peu.
Ouais. C'est problématique. C'est problématriste. C'est problématique. C'est problématriste. C'est problématique. C'est problématique. Ouais, ouais, ouais. C'est problématique, regarde le monde qu'ils nous laissent, ils exhibent leur puissance et déciment le vivant, on compte sur nos doigts le peu d'espèces qu'il nous reste. C'est problématriste. C'est problématique, regarde le monde qu'ils nous laissent, c'est grave la merde, ceux qui nous gouvernent sont des grabataires. Ça n'empêche pas qu'ils nous baissent, grand sa matrice, c'est la santé qui nous brise. On est tous dans la matrice, mais pas tous qui nous rivent, on ne croit plus au Père Noël ou à la petite souris, fini de sourire. Maintenant c'est la rage qui se nourrit, leur système donne le cancer, nous enferme et nous flique. Au nom de toute la terre, on a la je rage. Combien survivent au raz-de-marée, même si pour l'instant là je rame, trop de drames. C'est problématique, donc oui, là je râle, décoction, d'émotion. Voilà le rat prime saccadé, mots valisés et des sacs à dos. Tous les jours, fête du vivant, ils nous ont fait de sales cadeaux. Sans blague, tu sais pourquoi on se bat, tu connais l'enjeu, tu connais leur jeu. Je fais pas couler de sang, je fais juste couler l'encre. Ouais, ouais, ouais. Mind check, mind check.
Il faut une photo sonore. Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour la photo sonore?
Photo sonore.
On écoute Radio Vassivière sur 92.3 au soleil. C'est bien, c'est très bien.
Vous venez d'écouter Europa City Futur Cimetière, un objet sonore disponible à l'écoute sur internet sur le site lavimanifeste.com. On en parle tout de suite avec Emmanuel Morera. Les oreilles en éventail.
Passe-moi la radio.
Et donc nous avons la chance d'avoir Emmanuel Morera avec nous. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Jimmy.
Alors Emmanuel, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tu étais producteur, animateur et réalisateur à Radio Grenouille.
Mmh.
Et pour l'heure, tu diffuses encore des choses, puisque tu fabriques des objets comme celui qu'on vient d'entendre. Tu diffuses sur Radio Cause Commune, Radio Panique ou encore sur le site Lundi Matin. Et sur d'autres radios, ce que j'ai cru voir sur Facebook, que le documentaire qu'on vient d'entendre tourne pas mal.
Ouais.
Tu es aussi cofondateur de La Vie Manifeste, qui est une revue en ligne.
Ouais.
Et il y a un petit dernier qui vient de naître, qui est Hector, qui est une revue papier. Et on pourra...
Un journal, ouais.
C'est un journal, ouais. On pourra en causer aussi un petit peu.
Mmh.
Alors, Europa City, Futur Cimetière, c'est un objet sonore que tu as produit... Tu es crédité prise de son et montage, mais il y a toute une équipe avec toi qu'on entend dans le documentaire.
Oui, c'est des amis. Ça fait, c'est des séries de reportages dans des lieux, soit ZAD ou Futur ZAD. Et on n'y va jamais vraiment seul, donc on y va avec, avec des amis. Donc on entend le chemin vert, Europa City. Mais souvent dans, dans cette série-là d'objets, il y a le chemin vert et donc on y va en groupe. Il y va avec quelques-uns. Et donc, c'est la traversée à l'intérieur de la ZAD, une promenade à l'intérieur de la ZAD.
Bon, ce qui est assez marrant, c'est que vous vous y rendez en voiture, et puis il faut déjà s'y rendre, parce que c'est en Ile-de-France, mais assez loin en dehors de Paris, comme on le comprend.
Ouais.
Du coup, à Gonesse. Gonesse, c'est vers Roissy, c'est le nord Ile-de-France.
C'est nord, ouais. C'est le nord, c'est un nord, comment dire, la zone, elle est, bon, je pense qu'on l'entend dans le reportage, elle est très bruyante par les voitures, l'autoroute, les avions. Donc c'est une sorte de no man's land où il n'y a que des champs, du champ, de la culture, de l'agriculture intensive. Hein. C'est pas voilà, c'est de l'agriculture intensive et des autoroutes partout. Donc c'est pas forcément un lieu très accueillant, et ce qui est pas facile aussi du coup à occuper, parce qu'il faut s'y rendre, parce que c'est pas agréable en fait d'y être. À l'heure actuelle, et donc c'est vrai que ça donne, c'est assez austère comme dur comme espace, mais il y a quand même sur place des gens qui campent, quoi, et au bord de l'autoroute, et qui bloquent et qui essayent de bloquer les débuts de chantier, parce qu'il y a des chantiers qui ont déjà commencé, qui est pas le chantier d'Europa City, mais qui est, disons, le chantier du Grand Paris, c'est-à-dire le chantier de la gare. Parce que le projet d'Europa City s'inscrit à l'intérieur du Grand Paris, qui est donc un énorme chantier qui ceinture la ville de Paris.
Alors justement, donc vous allez à la rencontre de ces gens, mais alors qui sont ces gens? C'est des habitants des villes alentours?
Des habitants de Gonesse, et puis ensuite des militants sensibles à la question écologique, surtout Extinction Rebellion, qui est très présent dans ces lieux-là. À Romainville aussi, sur la forêt de Romainville, c'était et des habitants de Romainville et des gens du collectif Extinction Rebellion. Après, à Gonesse, il n'y a pas les agriculteurs, parce que c'est les grands propriétaires terriens, et eux, ils s'en foutent de ces terres. Il n'y a pas de fermes, les fermes sont très très loin, donc ils vendent. C'est une situation différente de Notre-Dame-des-Landes, où il y avait des paysans qui étaient liés à la lutte. Là, sur la lutte contre Europa City, il n'y a pas l'alliance avec les paysans.
Donc si jamais ZAD, une ZAD un peu, voire complètement différente.
Oui.
Et
elles sont toutes différentes, mais celle-là sera forcément très différente.
On t'entend un peu sous la forme d'une blague dire plusieurs fois l'endroit où les avions tombent.
Ouais. Mais ouais, mais parce que vraiment ils sont, on les a au décollage. Donc voilà, parce que le décollage, c'est toujours un moment périlleux pour l'avion, mais c'est vrai qu'on les a au décollage et à l'atterrissage. Ils sont vraiment juste au-dessus de nous, quoi. Les avions passent toutes les 10 minutes, quoi. C'est assez oppressant, ces avions au-dessus, quoi. Et les autoroutes sur le côté. Donc, allez imaginer de faire un énorme centre commercial. Déjà qu'il y en a plusieurs, on l'entend, mais il y a énormément de centres commerciaux en fait aux alentours. Mais vouloir faire une espèce de base de loisirs high-tech, hyper connectée avec ski et ce genre de choses sous les avions, c'est proprement ridicule, quoi.
Finalement, c'est un peu comme amener du ski aux Émirats en plein désert. C'est un peu le même délire, quoi.
Oui. Mais c'est vraiment une volonté d'urbaniser, de créer cette grande métropole du Grand Paris. Donc, du coup, d'être dans une continuité urbaine et puis de développer des projets inutiles comme Europa City, un énorme centre commercial, un de plus. Donc il y a là, en fait, une volonté de manger du territoire, quoi. Dire ça comme ça.
Mais alors, on l'entend, toi, t'arrives de Paris en voiture avec tes amis.
Ouais.
Quelle idée d'aller micro à la main pour couvrir ça, je l'entends, mais de le mener sous forme d'une enquête-aventure. Est-ce que vous êtes dit que vous alliez le tourner comme ça, ou finalement vous vous y rendez et puis c'est toi qui enregistre?
On s'y rend, c'est moi qui enregistre. J'avais fait ça aussi à Calais et à Romainville, ouais. Il y a une aventure pour y aller. En fait, le chemin pour y aller, il est important. Et puis, je n'y vais pas en tant que journaliste, enfin, moi, je me situe pas comme ça. Du coup, c'est vraiment, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ce qui se passe, parce que je suis sensibilisé à ces questions-là, et on y va avec des gens qui eux aussi sont sensibilisés à ça, donc c'est vraiment ouais, un groupe qui va, quoi. Donc du coup, effectivement, le micro, il est ouvert dès le chemin, quoi. Parce que le chemin pour y aller, c'est très important, quoi. C'est jamais, ces lieux-là ne sont jamais, comment dirais-je, au coin de la rue, quoi. Donc il y a tout un périple pour y aller. On a failli se perdre, et puis voilà. Alors après, quand on arrive dans les champs, il n'y a personne sauf une voiture de police qui nous suit, quoi. C'est marrant, ça, d'ailleurs. On a eu la police qui nous a suivis, mais tout le long de la marche, on a marché dans les champs. On a marché sur les chemins au bord de la route. Et une voiture de police à hauteur de nous, à hauteur de marche, à vitesse de marche, était avec nous. On était un petit groupe d'une cinquantaine de personnes. C'était une visite du site. Et à chaque fois qu'on va dans ce genre de lieu, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, ou à Bure aussi, ou à Calais, à Romainville, il y a toujours la police. Et les contrôles de police en permanence. Et on parle pas assez, ça, ce harcèlement de la police, mais pour ceux qui sont sur place, je pense à Bure par exemple, ceux qui sont à Bure, chaque fois qu'ils se déplacent, de prendre la voiture pour faire quelques kilomètres, aller faire des courses, aller acheter du pain, je sais pas quoi, ils passent des contrôles de police, quoi. Donc il y a un harcèlement de la police qui est assez éprouvant, quoi.
Toi, c'est quelque chose que tu ressens plus parce que tu... T'as ton micro à la main ou finalement ça change rien, t'es...
Non, ça change rien. Je suis pas contrôlé parce qu'il y a le micro, je suis contrôlé parce que j'ai une voiture. C'est simplement parce qu'il y a une voiture avec 4 jeunes gens à l'intérieur et donc du coup bah il faut contrôler, quoi. C'est le micro non. C'est vraiment le fait qu'il y ait 4 jeunes gens dans une voiture et donc faut les embêter, quoi.
Alors si la police se fout de ce micro, un petit peu, est-ce que quel impact ça peut avoir sur les gens que tu rencontres? T'es pris pour un journaliste, faut expliquer, il y a une démarche en particulier?
Ça dépend. Comme le micro, il est déjà ouvert et c'est assez discret quand même. Et que je parle dedans, je parle avec mes amis dedans, donc il y a quelque chose... Il est déjà là. Enfin, non, j'ai pas forcément besoin d'expliquer. Après, les gens demandent c'est pourquoi, c'est pour qui, et ils sont plus attentifs à savoir bon, c'est pour qui, c'est pourquoi. Mais généralement, enfin, on sent tout de suite quand c'est les grands médias, quoi, qui débarquent parce qu'ils restent pas la journée, parce qu'ils viennent et ils sont très intrusifs. J'ai pas forcément besoin de faire tout un préliminaire avant, quoi. C'est pas forcément nécessaire.
Mais alors justement, puisque tu viens pas à la manière d'un grand média, comme tu disais, chercher une parole et repartir tout de suite, on sent qu'il y a une forme de vie et de jeu, et en fait vous vous marrez vachement, je trouve, dans...
Ouais, bah ouais, parce qu'il y a de l'ennui aussi, alors du coup quand on s'ennuie, on fait des choses, quoi. Et donc, ouais, à un moment donné, voilà, on décroche un petit peu. Donc, on se dit, allez, on va faire un tour dans le champ de maïs, quoi. Et c'est ça aussi, quoi. C'est justement... En fait, j'ai l'impression que ça peut donner à entendre une temporalité, quoi. Comme s'il s'était passé plusieurs choses. Il y a à la fois la marche, à la fois une explication qui nous est donnée sur où est-ce qu'on est. Et puis, en même temps aussi, bah, il y a de l'espace et on va gambader, quoi. Donc, ça fait partie de la journée, ça. D'aller... Ça fait partie de la journée d'aller se balader dans le champ de maïs. Et donc, ouais, j'avais envie de le donner à entendre, comme justement, on peut être à la fois, à un moment donné, être en manif, à un moment donné, visiter le lieu, et puis à un moment donné aussi, chacun va qu'à ses occupations. C'est ça, une occupation, quoi. Donc j'avais envie de donner à entendre ça. Ouais.
Et il y a même des moments où ça chante à plusieurs reprises, avec des chants qui sont soit des créations, soit des détournements. C'est quelque chose qui se retrouve un peu, oui. En tout cas sur le SoundCloud de la vie manifeste, il y a des titres originaux ou détournés. C'est quelque chose ouais. un peu spécifique chez vous.
Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a des chansons à part entière, mais déjà à Romainville aussi, il s'avère que dans les luttes, il y a des chansons. Et souvent, enfin, dans toutes les luttes, à chaque fois, il y a une chorale, des chansons qui sont reprises. Et donc, ça m'importait de les donner à entendre. Et en même temps aussi, que ces chansons, c'est souvent, elles commencent toujours par des logiques d'improvisation, quoi. Et donc, c'est vrai, dans ce reportage, il y a des chansons improvisées. Chansons improvisées avec les gens. Ou des chansons en cours de fabrication, ce genre de choses. Mais la chanson, c'est ce qui donne du courage, quoi. C'est ce qui permet de... ça donne de la force, donc et puis c'est quelque chose qu'on peut partager, donc j'avais envie de donner à entendre les, j'aime bien donner à entendre les chansons, et puis j'aime bien qu'on en invente aussi, une chanson qui peut raconter la journée par exemple, des choses comme ça, ouais. Ouais, la chanson ouais, c'est très présent en ce moment.
On sent qu'il y a un processus de création, et puisque même vous tentez une improvisation, en tout cas il y a quelque chose qui est créé puisque vous demandez le nom du maire.
Ouais.
Et ça, c'est des choses que vous allez chercher sur le moment et que vous nous faites vivre, d'aller chercher des noms, des renseignements comme ça.
Ouais.
Et tu le mets en chanson sur le terrain ou disons que tu composes...
Ah non, sur le terrain, immédiatement.
Ouais.
En impro. ouais. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aussi, après, il y a d'autres chansons, d'autres gens qui se mettent à chanter. C'est donné là tout de suite, quoi. C'est... Non, il n'y a aucun son qui se fait après. Okay.
Et alors à un moment tu dis, on l'entend, pas forcément pour expliquer ce qui est en train de se passer, mais en tout cas pour peut-être pour clarifier auprès de quelqu'un, tu parles d'objets radiophoniques plutôt, ou d'objets sonores plutôt que de reportages ou de documentaires.
Ouais.
Toi, l'idée de faire un objet, c'est quelque chose qui t'importe plus que de dire, voilà, moi, je fais du reportage radio.
Oui, parce que c'est juste que le mot objet, il est plus vaste, il est plus grand, il est plus large, que le mot reportage, il est déjà plein d'assignations, d'idées fixes, quoi. C'est-à-dire, donc, reportage, tout de suite, ça fait truc de journaliste, ça fait quelque chose de court, documentaire, ça fait quelque chose de plus long, voilà, alors que c'est une... Le mot objet, ça permet de d'être très libre dans la forme après. Donc ça peut être court, ça peut être long, ça peut mêler du reportage, mais de la création. Je préfère objet, ouais. Je préfère objet parce que voilà, l'imaginaire est plus, ça laisse de la place à l'imaginaire, mais pas forcément pour moi, mais disons pour la personne qui demande qu'est-ce que c'est. Si je lui dis reportage, si je lui dis documentaire, elle a déjà ça dans sa tête, c'est une case qui existe déjà, donc elle a une idée de ce que ça peut être. Si je dis objet radiophonique, il y a quelque chose de vaste, donc elle ne raccroche pas ça à quelque chose qu'elle connaît déjà, et donc du coup, bah, ça donne à entendre qu'on ne sait pas très bien ce que ça va être, quoi.
Mais alors, dans cette dimension un peu d'objet, il y a aussi des formes un peu hybrides, parce que quand on parcourt le site lavimanifeste.com, on voit que donc il y a du son sous forme, on va dire, oui, de paroles avec des interviews,
même des entretiens,
entretiens, et il y a des sons comme celui-ci qui se rapprochent, on va dire, de formes de, j'aime pas le mot, mais de documentaire de création, enfin quelque chose qui est un peu hybride. Il y a des chants, il y a de la vie, et on est sur un terrain. Mais il y a aussi il y a des textes.
Ouais.
Et puis parfois il y a de la vidéo. Je sais que sur Facebook on peut voir aussi justement des petits karaokés de vos chansons.
Ouais. La vie manifeste c'est un site internet, une revue internet qui a été ouverte en 2008, qu'on a ouvert avec j'ai ouvert avec mon amie Amandine André, et donc c'est un endroit où on dépose un peu à la fois ce qu'on fabrique, ce qu'on a fabriqué tous les deux, mais aussi un endroit d'accueil pour d'autres fabrications venant d'ailleurs, de d'autres personnes. Et au niveau du son, dès le début, lorsque ça a commencé avec à la fois de la mise en son des textes d'Amandine André, et puis aussi au niveau des entretiens radiophoniques, au début, ça je le fais moins parce que ça demande plus de temps, mais les entretiens radiophoniques, ils étaient, comment dirais-je, pétris à l'intérieur d'objets radiophoniques, ou plutôt les objets radiophoniques étaient dans les entretiens. C'est-à-dire qu'il y avait des entretiens dans lesquels il y a un long prologue qui est un peu étrange, objet, création, et puis ensuite on rentre dans l'entretien. C'était une manière pour moi de fabriquer, ou en tout cas de voir comment une parole peut résonner avec un imaginaire. Et donc, il y a beaucoup d'entretiens où il y a des sortes d'objets radiophoniques en prologue, en préface peut-être, et puis en épilogue ou en postface, ou des fois même au milieu, dans le pli de l'entretien. Aujourd'hui, je le fais moins parce que ça demande beaucoup de temps, mais par contre, les objets radiophoniques ont pris leur autonomie et sont plus insérés dans les entretiens.
Alors, c'est des choses que tu diffuses aussi, du coup, à la radio, comme je disais en intro tout à l'heure. Radio Cause Commune, qui est à Paris.
Ouais.
Radio Panique, qui sont...
À Bruxelles.
Il y a le site Lundi Matin, qui relaie aussi les... Ouais. Avec un player SoundCloud, ce genre de choses. Il y a d'autres endroits où tu diffuses, enfin, t'es... En plus, j'ai cru comprendre que c'était sous licence Creative Commons.
Ouais. Donc, je pense qu'il y a d'autres radios qui diffusent que je sais pas... Donc, je sais pas. Et puis après, c'est en fonction du type de sujet ou de l'objet, quoi. Donc, il peut y avoir, comme là, Radio Vassivière, mais sur Europa City, il y a eu Radio Larzac aussi, et puis des web radios. Il y a le réseau des campus, le réseau Radio Campus, il y a Campus Orléans qui a diffusé. Mais disons que là où c'est quasiment, on va dire, systématique, c'est Radio Panique, et Radio Cause Commune, et ensuite les autres radios, c'est en fonction du sujet, en fonction du type de format, quoi. Donc ça c'est assez aléatoire, mais en fait j'aime bien que ce soit largement diffusé, forcément. Il y a Radio Grenouille, évidemment, parce que j'y ai travaillé pendant de longues années. Donc, ils continuent de diffuser ce que je fabrique. Mais, en tout cas, le fait que ça soit sur Internet, pour moi, n'est pas la même chose que la diffusion FM. En fait, je tiens à la diffusion FM. Enfin, je ne sais pas très bien pourquoi l'expliquer. Mais j'ai l'impression que ces podcasts, quoi, enfin que ces sons, que ces objets, pour moi, ils continuent d'être faits pour la radio. Ils continuent d'être faits pour qu'ils soient diffusés à la radio.
Même s'ils sont disponibles sur Internet.
Même s'ils sont disponibles sur Internet, ouais.
Donc il n'y a pas de, trop de chronologie, il n'y a pas d'ordre préféré. En fait, il y a une création, une diffusion Internet et ensuite des diffusions FM plus ou moins maîtrisées, quoi.
Ouais, mais ils prennent, pour moi, enfin, s'ils n'étaient que sur Internet et pas à la radio, je serais déçu, quoi. Même s'ils peuvent être sur Internet et qu'ils peuvent être écoutés. Je tiens aux médias radio, à la FM.
Et quand tu tends ton micro, t'y penses à ça?
Ouais. Ouais, ouais. Complètement, ouais. Oui, d'où les ads. Enfin, oui, bien sûr. Ouais.
C'est quelque chose qui oriente un peu la manière dont tu travailles, ou est-ce que tu t'autorises du coup peut-être plus de vie, moins de montage, ou...
Oui, ouais, plus de vie, moins de montage, plus quelque chose du direct, ouais, complètement, ouais. Plus brut aussi, ouais.
Parce que justement sur ces formes brutes, à Notre-Dame-des-Landes, sous la forme d'une radio, d'une antenne FM, il y avait Radio Klaxon, qui était, une radio d'intervention,
ouais.
Qui, là, c'était carrément de l'antenne en direct, donc c'était brut, sans montage. Est-ce que toi, ça te tenterait des formes un peu comme ça, presque en one-shot? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du vivant direct?
Ouais, c'est sur Radio Klaxon, c'était juste extraordinaire, hein, quand même, cette radio, hein, parce que c'était Alors, c'était la radio de la ZAN, mais c'était aussi la radio, au sens talkie-walkie, quoi, message d'information pendant les moments d'évacuation de la police, pendant les interventions de la police. Et donc, c'était vraiment la radio qu'on pouvait avoir, qu'on écoutait à la barricade, la radio qui donnait toutes les informations sur où sont les flics, les différentes positions, les cabanes à aller défendre, et ainsi de suite. C'était assez fou, quoi, une espèce de radio de lutte comme ça. Et donc, effectivement, très dans le direct, si elle diffuse quelque chose, elle l'interrompt tout de suite pour ce qui est en train de se passer. Finalement, pas loin d'une sorte d'info en continu, quoi. Mais du côté des militants, et c'était assez fascinant d'entendre ça. Et je rêverais. En tout cas, je trouve que faire de la radio à ce moment-là, c'est juste fou, parce que c'est un moment où en fait la radio elle est nécessaire, quoi. Donc elle est écoutée, quoi. Elle est écoutée, elle a vraiment un rôle à jouer. Donc c'est assez joyeux de pouvoir contribuer à une lutte via l'outil radiophonique, et de voir que la radio peut être un acteur non négligeable d'une lutte. Donc c'est important de pas, donc du coup, c'est vrai que j'essaie de ne pas trop m'éloigner de comment je peux contribuer à la lutte. En fait, quand je fais ces petits objets aussi, Europa City ou Romainville ou Bure ou Notre-Dame-des-Landes, c'est toujours aussi pour donner un cadeau. C'est-à-dire, au fond, je le fais pour que ce soit d'abord pour ceux avec qui je suis, pour ceux que je rencontre et ceux avec qui je suis. Donc, il y a l'idée de donner quelque chose, de donner un cadeau. Donc, de se situer de ce côté-là, du côté des amis, en fait. Et donc, ouais, Radio Panique, c'est une radio qui se situe du Radio Panique, Radio Klaxon. C'était vraiment la radio des amis, quoi.
Et donc, il y a une forme libre sous Creative Commons pour le diffuser. Donc, c'est pas forcément quelque chose dont tu vis.
Ah non. 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 Mais enfin, ça.
D'où l'idée du cadeau.
D'où l'idée du cadeau, bah ouais. Par raison de plus, quoi. Parce que de toute façon, t'en vis pas. Ouais. Non, pour vivre de la radio, il faut travailler dans une radio. Et avec. C'est pas simple, parce que quand on travaille dans une radio, surtout les petites radios, tu le sais bien, on fait pas que de la radio. Des fois, on fait que de la radio, mais c'est assez rare. Surtout dans les petites radios, on fait aussi plein d'autres choses. On fait des trucs administratifs, on fait des fois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que de la radio. Ou alors, on fait de l'antenne en permanence. Et l'antenne, c'est bien, mais c'est aussi. C'est aussi épuisant, et c'est bien de pouvoir justement aussi de sortir de l'antenne du flux pour donner à entendre des choses peut-être plus construites, des plages, ce genre de choses. Enfin, j'imagine que ça tu le sais bien, mais en tout cas, travailler dans une radio associative, en vivre, quoi, je veux dire, c'est très rare. Il y a très peu de radios qui peuvent salarier des gens. Ça, c'est la situation de la radio en France, quoi, qui est absolument pas financé, sur lequel il y a pas de thunes, sauf à vouloir aller travailler dans des radios privées dans lesquelles il y a de la publicité toutes les deux secondes. Et puis quand c'est pas de la publicité, c'est les militants de l'économie qui parlent, les ingénieurs militants d'Europa City, ce genre de choses, qui fait qu'il y a, dans ces radios-là, il y a rien, quoi. Il y a soit de la propagande, soit de la publicité, et au final, c'est aussi de la propagande. Bref, il y a que de l'appel à la consommation et à l'ordre dans ces radios. Donc, c'est même pas la peine de penser d'aller y travailler. Il reste les radios associatives, mais là, pour y travailler, c'est très rare. Et puis, c'est des contrats qui sont faiblement rémunérés. Ou alors, des services civiques aujourd'hui. Donc, c'est pas trop possible.
Alors, tu disais justement prendre le temps de construire des objets et en même temps avoir le goût du flux. Donc, tu es ouais. Une forme d'entre-deux. Et ces objets sonores qui sont des cadeaux, et ça me fait penser à une autre forme de cadeau qui, vu le prix et le temps que ça te prend, je pense, pardon, on a été coupé, ouais. Vu le prix et le temps que ça te prend, je, j'ose imaginer. Je pense que c'est une forme de cadeau aussi, c'est la revue Hector.
Ouais, carrément. C'est un journal.
Ça, c'est un journal.
C'est un journal, c'est un journal papier, c'est une F. Il y en a deux numéros, l'idée c'est d'en sortir un par mois, donc il y en a un en mai, un en juin. Ensuite, il y en aura un autre en septembre, octobre, et ainsi de suite. C'est un journal papier qui est diffusé à 300 exemplaires. Et donc là il s'agit de traverser l'actualité des luttes par le dire poétique. Comment la poésie peut dire le présent des luttes. Ça c'est là pour deux raisons, au moins deux sûres. Une, parce que depuis la loi travail, les murs sont pleins de poèmes. L'écriture, elle est très inventive. Si on compare ce qui s'écrit maintenant sur les murs avec ce qui s'écrivait en 1068, on n'a pas à rougir. C'est trois fois plus inventif que 1068. C'est beaucoup plus au tac au tac. C'est hyper vivant. C'est pas des mots d'ordre. C'est vraiment du tac au tac, de la réponse au pouvoir. De la joie, ça swing, quoi. Ça, c'est splendide. Et donc, souvent, on peut entendre que les gens se plaignent, que la poésie n'est pas là, ou pourquoi les auteurs font pas des textes, je sais pas quoi, alors qu'en fait, elle est là. Donc déjà, il y a une réalité du poème, de la langue, de l'invention, du jeu de mots, sur les murs, pendant les manifs. Ça, c'est une première chose, et donc, il y avait l'idée de s'inscrire dans ça, donc dans Hector. Il y a dans la page centrale à chaque fois une de ces phrases en page centrale du journal, de ces phrases prises sur les murs de la ville. Et puis une deuxième chose, c'est que depuis un certain nombre d'années, les automédias se sont développés, Paris Lutte Info, Rébellion, enfin. Il y a énormément de sites d'automédias qui sont développés et qui viennent raconter ou dire les manifestations, en faire le récit, et ainsi de suite. Et je trouvais que sur ces sites-là, ça reste très... là, pour le coup, je trouve que la poésie a peu de place. Et ce qui est intéressant avec le site de lundi matin, par exemple, c'est qu'on a des textes critiques qui peuvent être très poussés, des textes d'intervention, mais il y a aussi du poème qui est présent. Et donc, j'avais envie de voir comment on peut raconter ou revenir sur une manifestation par la poésie, attaquer une personne par la poésie, en tout cas lui répondre par le poème. Et donc il y avait cette envie comme ça d'aller plus loin avec le poème pour qu'il puisse dire ce qu'on est en train de vivre et surtout les luttes qui sont en train d'être accomplies. Et puis Hector, c'est le nom d'un palmier qui a subi l'ouragan Irma a combattu cet ouragan et il en a survécu. Donc c'est un vrai guerrier, ce Hector. C'est un guerrier des temps des catastrophes et il a survécu à la catastrophe. Il a été appelé Hector par les internautes au moment même où Irma s'abattait sur lui, parce que il y a les webcams et on a pu voir en direct cet Hector, ce palmier, lutter contre l'ouragan. Et pendant qu'on voyait cela en direct, les internautes se sont mis à le nommer Hector, lui ont ouvert des comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, ce genre de choses. Et ils se sont mis à le faire parler, à en faire un héros. Et ça, je trouve ça assez... je trouvais ça très beau, quoi. Donc, il y avait l'envie comme ça de créer un journal qui soit aussi guerrier. Et puis, une dernière chose, c'est sur la question du nom et de nommer. Dans Hector, il y a beaucoup de
noms cités.
De noms,
Ouais, de non-citer. Je pense que la question de nommer ceux qui sont en train de détruire aujourd'hui la planète, les espèces, les formes de vie, il faut les nommer. Et il faut les nommer de manière extrêmement précise, détaillée, de manière très précise. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font depuis des années, où ils vont, comment ils sont décorés pour ce qu'ils font, comment ils sont reconnus pour ce qu'ils font, et ainsi de suite. De manière à ce qu'on ne perde pas la mémoire de ça, car il y a un jugement à faire, et Hector, c'est aussi cela, c'est aussi comme ça, donner les noms, préciser qu'est-ce que ces gens sont en train de faire en ce moment. Donc il y a ces différentes dimensions, donc ça lui donne un journal offensif aussi.
D'où l'idée de faire du papier aussi ?
Le papier, c'est parce que le papier, c'est le côté de donner de main en main, de donner quelque chose. Et c'est aussi sortir un petit peu, pour le coup, d'Internet, où on est très dépendant de réseaux sociaux dont on ne maîtrise pas. Et donc, de se dire qu'avec le papier, on peut faire circuler les choses de manière plus autonome. Alors que finalement, sur Internet, on est de moins en moins autonome dans la circulation des choses. Si on veut faire circuler des choses sur Internet, on est dépendant de grandes sociétés comme Facebook, comme Twitter, comme SoundCloud, comme YouTube, et ainsi de suite. Bref, toutes ces sociétés qui exploitent ensuite nos données, qui font n'importe quoi, et qui sont très dangereuses en plus. Donc, avec le papier, c'était la possibilité de se remettre à diffuser des choses de manière plus autonome.
Et donc, de se le passer de main en main, ou de se l'envoyer par la poste ?
Ouais, complètement.
Très bien, et merci beaucoup, Emmanuel, pour ces cadeaux, je rappelle, donc, comme tu disais, les cadeaux que tu nous fais, que vous nous faites, donc avec La Vie Manifeste, Hector, la revue papier, le prochain numéro, c'est le numéro 3 ?
Ouais.
Qui arrive bientôt ?
Qui arrivera le 15 septembre, et comme l'été n'a pas existé, l'interruption de l'été n'a pas eu lieu, ce qui est assez inédit et joyeux, du coup, il y aura plein de choses à dire.
Et donc, Europa City, Futur Cimetière, objet sonore qu'on vient d'écouter, qui est à l'écoute aussi sur lavimanifeste.com, si je ne me trompe pas.
Exact.
Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Non, rien de spécial. Juste dire que pas très loin de Vassivière, tout bientôt, le 16 août, commence un festival des écritures à Aymoutier, qui aura lieu du 16 au 19 août, et je pense que ça va être très bien. En tout cas, moi, j'y serai.
Eh bien, on se voit là-bas, alors.
À très bientôt, Jimmy.
Yes, à très bientôt. Merci beaucoup.
Miaou, miaou. Les petits chats aussi écoutent Radio Vassivière sur le 88.6. Miaou.